La danse des mots, Yvan Amar.
Tongassou, la danse des mots, yaye Tatananarive.
Et oui, en effet, la danse des mots est à Madagascar, à Antananarivo, qui est la ville du sommet de la francophonie, organisée cette année par Madagascar. Donc cette danse des mots, elle va s'enregistrer au village de la francophonie, au pavillon de la francophonie, qu'on remercie d'accueillir RFI, et les 7 prochaines, pendant toute la semaine, y compris samedi et dimanche, nous intéresserons à des thématiques malgaches. Et aujourd'hui, comme nous sommes lundi, nous n'allons pas déroger à nos habitudes. On va terminer par la séquence Ma Parole, qui accueille Denis Bisson, qui est le directeur de l'Institut français, ici, à Antananarive. Est-ce que je vais m'autoriser à dire Tana comme tout le monde? Ça ira plus vite. Mais tout de suite, pour la première émission, on va s'intéresser à l'histoire de la langue malgache avec 2 invités, un général poète qui est Désiré Ramakavel et puis un intellectuel qui est journaliste, notamment au quotidien L'Express et qui a eu l'extrême élégance de trouver un pseudonyme de journaliste qui m'évite de prononcer un mot de 18 ou 19 syllabes. Donc aujourd'hui, je l'appellerai Vanf. Général Ramakavel et Vanf, merci beaucoup d'être avec nous pour cette première partie, la danse des mots. Donc, on va commencer par le début, c'est-à-dire par l'histoire de la langue malgache. Désiré Ramakavel, est-ce que vous nous diriez comment on dit le malgache, la langue malgache, en malgache? On vous écoute.
Teni Malagasy.
Malagasy. Bon. Alors, dites-nous un petit peu, tous les deux, hein, d'où vient cette langue malgache? Ça fait longtemps qu'elle est sur l'île, mais elle a un passé, elle a une préhistoire.
Ben, écoutez, la langue malgache, je dirais, est classifiée dans la langue malayo-polynésienne. Alors, avec la consonance, particulièrement, donc est classée malayo-polynésienne. Mais néanmoins, vous savez, la langue malgache, on dit qu'il y a beaucoup d'origines. La langue malgache, c'est un creuset de différentes langues, à savoir, il y a la langue polynésienne, donc malayo-polynésienne, il y a la langue arabe, il y a la langue africaine. Vous voyez que c'est vraiment un véritable mélange. Et ça constitue à peu près une certaine énigme dans ce sens que comment ça se fait que Madagascar, qui est un creuset de langues, ces différentes langues deviennent une seule langue, la langue malgache. Parce que vous savez, à Madagascar, c'est quand même la 3e grande île dans le monde, après l'Australie, le Bornéo. Et comment ça se fait que les Malgaches se comprennent du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre?
Alors ça, c'est une question que je vous reposerai tout à l'heure, de savoir s'ils se comprennent vraiment et quelle est
oui,
la variation.
Mais justement,
un peu d'histoire. À partir de quand on a commencé à parler malgache sur l'île?
Ben écoutez, à ma connaissance, on a toujours parlé de la langue malgache à peu près, hein, parce que de toute façon, vous savez, c'est ce qu'on appelle le proto-malgache, qu'on appelle la malgache, les Vazimba. Eh bien, je pense que ces Vazimba ont parlé déjà le malgache. Et c'est là justement ce que j'ai dit, une énigme. Parce que comment ça se fait, par exemple, qu'en Afrique, ils se comprennent pas, même les Sénégalais, à 50 kilomètres, ils se comprennent pas. Il est obligé de parler le français.
Au Sénégal, il y a quand même une langue véhiculaire qui est le Wolof. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de langues dans tous les pays d'Afrique et que dans cette île de Madagascar, il y a une langue.
Une langue, exactement, c'est ça. Même, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une origine arabe. Il y a d'autres origines également. Et malgré l'étendue, la superficie vaste de Madagascar, les Malgaches, ils se comprennent. Ils parlent le malgache, ce qu'on appelle le malgache. Et c'est là justement l'énigme. Parce que vous savez, il y a des mots qu'on utilise en malgache, des mots d'origine arabe, il y a des mots africains, d'origine africaine, qu'on parle à Madagascar, et d'autres, exactement, il y a même d'origine européenne, je dirais, française en particulier, et britannique, qu'on parle à Madagascar, et tout ça forme un mélange.
Oui, ça fait un agrégat, en effet.
Absolument, un agrégat, comme vous dites. Et comment ça se fait?
C'est que le malgache est une langue hospitalière, et que même s'il est arrivé donc de Polynésie pour s'installer sur l'île de Madagascar, Il n'était pas opposé au fait que de temps en temps il y ait d'autres mots qui soient empruntés à quoi, par exemple. Vous parliez de l'arabe, Vanf, qu'est-ce que vous en pensez?
J'aimerais revenir à, un peu à l'histoire, si vous voulez. Comme a dit le général, la langue malgache est classifiée dans la langue malio-polynésienne de l'Ouest. Et il faut savoir, c'est que il y a 5000 ans à peu près, cette langue-là, avec les locuteurs de cette époque, est partie du sud de l'île de Taïwan, passée par les Philippines, donc l'archipel maléo-indonésien actuel, pour aller jusqu'à Madagascar.
Et on peut remonter 5000 ans en arrière.
Oui, parce que justement,
c'est long quand même comme histoire de langue de savoir
il est
que
quand
parlait-on
même,
il y a 5000 ans.
C'est vrai, mais il est quand même loin le temps où Hubert Deschamps pouvait dire que la plus belle émigre du monde, c'est le peuplement de Madagascar. Mais depuis, la linguistique, l'archéologie, la génétique a fait des progrès spectaculaires qui permettent de retracer exactement, très scientifiquement, le déplacement et l'arrivée de cette langue. Et donc, grosso modo, vous avez posé la question tout à l'heure de combien d'années. En fait, ceux qui parlaient, je ne sais pas si c'était déjà une langue malgache, on ne l'appelait pas comme ça peut-être à cette époque-là, à peu près à une fourchette donc de moins 500 avant Jésus-Christ, à 500 avant Jésus-Christ, parce qu'il y a des datations au Carbone 14 faites au lac Cavita, il y a un Titivakil.
Dater une langue au Carbone 14, quand même, c'est un défi.
Non, parce que c'est pas la langue qui était datée, c'est l'arrivée des locuteurs.
Bien sûr. Oui, voilà. Oui, je comprends. En même temps, cette langue n'a pas énormément essaimé, mais un tout petit peu. Par exemple, aux Comores, on parle une variante du malgache, ou en tout cas, il y a un certain nombre assez important de locuteurs comoriens qui parlent un malgache. Vous appelleriez ça du malgache?
Pour les linguistes, c'est une variété de malgache. C'est un dialecte malgache qui s'appelle Kibouche, Simouche, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, ce mot-là, tout à l'heure, au général, parlait de l'apport arabe. Ce sont les Arabes, en fait, qui appelaient les Indonésiens, entre guillemets, parce que l'Indonésie n'existait pas à cette époque-là.
On ne l'appelait pas comme ça, bien sûr.
Les Boucs ou les Bouchis.
Oui.
Et ils avaient un autre mot aussi pour désigner et à la fois donc Java de l'autre côté de l'océan Indien et Madagascar et les Comores de l'autre, c'est Javak de Java, n'est-ce pas? Et puis aussi Ramini, c'est en arabe, c'est l'île de Sumatra actuelle qui va donner tout à plus tard les Aframni, une population malgache.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est une langue qui a beaucoup évolué? Là encore, c'est toujours, il y a une marge d'erreur très importante, c'est difficile de savoir, on n'a pas d'enregistrement, on a quelques textes, mais l'écrit n'est jamais semblable à l'oral. Est-ce que c'est une langue qui a beaucoup bougé dans les derniers siècles, voire même dans les dernières décennies? Est-ce que c'est une langue très évolutive que le malgache?
Comme toute langue vivante, ça évolue, particulièrement la sémantique. Il y a le sens des mots qui évolue. Et à Madagascar, c'est pareil. En tant que langue vivante, vous savez, il y a des mots concrets comme ça, selon l'époque, les circonstances, selon des événements même. Il y a des mots qui sont créés ici à Madagascar. Et c'est la raison pour laquelle je peux dire qu'il y a une évolution de la langue malgache, effectivement. On parle des fois même ce qu'on appelle le langage des jeunes, Ftinzatou, par exemple. Il y a une femme qui a sorti même un petit lexique concernant les mots des jeunes, les lexiques.
Et il y a un argot qui bouge beaucoup.
Oui, mais absolument.
Un argot scolaire, un argot d'étudiant.
Particulièrement chez les jeunes.
Oui.
Il y a des mots, que je ne comprends pas.
Jeune et urbain. Jeune et urbain. En fait, le malgache est assez conservateur par rapport à la langue d'origine.
Oui, Vanf.
C'est assez bizarre parce que on retrouve la structure, c'est une langue musée en fait. La structure.
Qu'est-ce que vous entendez par une langue
justement,
musée?
Justement, je vais y venir. Les linguistes ont pu démontrer qu'à partir de langue manyan du sud de Bornéo, il y a une relation de parenté extrêmement proche. Ce qui est quand même formidable, à 6000 km de distance. Et malgré que entre Bornéo et Madagascar, il y a les îles de Java et de Sumatra. Et donc, par-dessus les îles de Sumatra et de Java, la langue malgache a pu garder presque telle qu'elle la structure. Je parle bien de structure, pas de tous les mots, les structures de la langue d'origine.
Et vous, vous est déjà arrivé d'entendre justement la langue qui se parle aujourd'hui à Java, à Sumatra, à Bornéo?
Et c'est formidable au niveau de l'accent.
Est-ce que vous entendez une parenté avec
quand les Indonésiens parlent? Dans les documentaires, on peut entendre ça. On dirait des malgaches de la côte est.
Ah, oui. Ah bon?
Voilà. Et c'est assez bizarre parce qu'on a toujours cru que les Malgaches des Hautes-Terres centrales, qui physiquement, physiologiquement, sont les plus proches de l'Indonésie, ils ont un autre accent. Mm-hmm. Et j'aimerais aussi dire que les missionnaires écossais sont arrivés à Madagascar, qu'ils ont figé la langue par l'écrit, il y a eu certainement une sorte de rupture. Parce que ce qu'on parle, ce qu'on dit, n'est pas exactement la même selon qu'on lise l'écrit, à mon sens.
Antananarive 96 FM.
Antrani, attends ces mots.
Dalit, c'est le nom, excusez mon accent de débutant, hein, de cette chanson qu'on vient d'entendre, une chanson de Damil. Comme on vient de l'entendre également, la danse des mots d'aujourd'hui se fait au sommet de la francophonie autour de cette histoire de la langue malgache. Et tout à l'heure, on évoquait le fait que tout le monde se comprend à Madagascar. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que il y a des variations importantes, soit de lexique, soit même d'accent, entre le nord et le sud? C'est pas pour rien qu'on appelle Madagascar la grande île. C'est vrai que, je sais pas, ça fait quoi, 2000, 2500 kilomètres du nord au sud? C'est long. Est-ce que tout le monde se comprend immédiatement, Désiré Ramachavel?
Moi, je suis militaire, et vous savez, quand j'étais lieutenant-capitaine, on faisait ce qu'on appelle la marche-manœuvre. Et la marche-manœuvre consiste à aller justement à parcourir toute l'île. Et partout où j'allais, du nord au sud, l'est, l'ouest, j'ai pas besoin d'interprète, je comprends ce qu'il dit le monsieur qui fait le discours, et mon discours, il le comprend également. Alors, c'est la raison pour laquelle que, à Madagascar, il y a des variantes, si vous voulez, mais on se comprend.
Oui.
On n'a pas besoin d'interprète, mais on se comprend.
Mais il est très facile, quand on entend quelqu'un, de savoir d'où il vient, par exemple. Il y a des accents géographiques.
Oui, ça existe. Oui. Ça existe, oui. L'accent, ça existe bien.
Selon qu'on soit de l'Est, de Haute-Terre ou de l'Ouest, le D peut devenir un L, le DS, un DR, et ainsi de suite. C'est mais vrai. comme il le dit, on arrive à se comprendre.
Donc des accents géographiques. Est-ce qu'il y a aussi une grosse différence entre les villes et les campagnes? Est-ce qu'il y a des accents, disons, des campagnes?
La campagne, c'est même ici sur les Hautes-Terres, il n'y a pas besoin d'aller très loin, 20 km de Tananarive, même les gens ont un léger accent traînant, on va dire.
Oui. Ah voilà. Oui. On traîne un petit peu?
Ils ne sont pas pressés.
Et cette langue, donc, elle évolue, on vient de le voir, et puis bien sûr, elle s'écrit. Alors dites-nous un petit peu en quoi elle s'écrit. Aujourd'hui, bien entendu, elle s'écrit dans l'alphabet européen. Est-ce qu'elle s'est toujours écrite dans l'alphabet européen?
Non, mais avant, c'est avec l'écriture arabe, ce qu'on appelle le sourabé. Et ça se pratiquait dans le sud-est de Madagascar en particulier, là où vraiment, je ne dirais pas l'islam, mais en fait, il y a une connotation arabe, surtout. Une
connotation religieuse, vous voulez dire ?
Connotation religieuse, oui.
Donc, voilà. les premiers écrits qu'on a eus étaient faits avec un alphabet arabe, et je crois que c'était un nombre assez restreint d'intellectuels qui s'étaient saisis de l'alphabet arabe pour transcrire la langue malgache.
Oui, si vous voulez. Mais à partir de, au début du 19e siècle, il y a un roi de Tananarive qui s'appelle Radam.
Oui.
Radam Rouloune.
Qui a pris un décret.
Oui, et désormais, on écrit la langue malgache en alphabet latin.
Ouais.
Donc ça a commencé donc vers 1817, par là.
C'était 1820. En 1823. Avec
1823, le 26 David mars, Jones. M'a-t-on dit.
Voilà.
Oui.
Voilà.
Donc c'était quelque chose d'extrêmement officiel.
Oui.
Et s'il a dû décréter, outre le passage de l'écriture de l'alphabet arabe à l'écriture romane, que l'abécédaire malgache ne comprendrait ni C, ni Q, ni U, ni X.
Parce que ça correspondait à des phonèmes qui étaient absents de la langue malgache.
Il trouvait que un mot qui devait se prononcer de mille manières n'était pas commode, allusion à l'anglais peut-être, parce qu'il avait en face de lui des missionnaires britanniques, mais donc il voulait simplifier. Et enfin, c'est resté un peu dans les louvres de souffle, comme on dit chez nous, l'héritage des oreilles. Mm-hmm. Quand c'est A, c'est A. Quand c'est I, ça peut devenir I une fois, Y une autre fois.
Et donc, il n'y a pas de problèmes phonétiques particuliers qui sont liés à l'utilisation de cet alphabet.
Le général pourrait en parler parce que les académiciens, jusqu'au début même du 20e siècle, n'ont pas arrêté de discourir et de discuter
l'orthographe. Alors, autour de quoi ? Désiré Ramakavel.
Oui, mais écoutez,
il y a eu de grandes querelles autour de l'utilisation de cet alphabet.
Bah écoutez, entre la langue parlée et écrite, entre le parlé et l'écrit, il y a de grosses différences. Parce que de toute façon, on peut parler avec l'accent régional, si vous voulez, avec des dialectes. Mm-hmm. Par contre, la langue administrative, ça c'est commun dans toute l'île. Et ça se prononce d'une seule manière également aussi. Donc il y a ce qu'on appelle la langue administrative, qui est la langue malgache officielle, si vous voulez, et puis à la langue régionale, si vous voulez.
Alors, Vanf évoquait il y a un instant l'académie. Il y a une académie malgache.
Il y a une académie. Vous savez, cette académie a été créée par le général Gallieni en 1902.
Donc, alors, Gallieni, c'est une grande figure à Madagascar, d'une certaine
mais
façon.
Mais bien sûr. On avait même
peut-être
une
controversé,
sujet délicat.
Quand même, c'est quelqu'un, non, c'est quelqu'un dans le souvenir et très important.
Vous savez, je veux vous dire pourquoi il a mis en place l'Académie malgache. Mmh. Parce que le général Gallieni voulait vraiment que Madagascar assimile vraiment la civilisation et la culture française. Et c'est la raison pour laquelle, quand il a institué l'Académie malgache, c'est pour connaître justement l'âme malgache. Ce qui fait que le malgache est. C'est la raison d'être de l'Académie malgache. Et à partir de là, il essaie justement, parce que nous, ici à Madagascar, la politique laissée par le général Gallieni, c'est la politique de division. Dès qu'on évoque le nom du général Gallieni, c'est la politique de diviser pour régner. Mmh. C'était ça.
Justement, pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'avais commis un article assez favorable à la mémoire du général Gallieni à Madagascar, et on m'était tombé dessus à bras raccourcis. Mais ce que je voulais dire, c'est que il était dans son rôle de colonisateur, de pacificateur, et par contre, on ne pourra pas lui enlever la paternité de l'Académie malgache, de l'Académie de médecine,
du chemin de fer malgache. Ces académies, maintenant, se sont affranchies d'une idéologie colonialiste dont on pouvait pas faire l'économie. On a beau le déplorer et dire que ça a été monstrueux, criminel, tout ce qu'on veut, ça a existé. Et en fait, l'histoire actuelle de Madagascar en est l'héritière.
L'héritière, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été intégré, adopté, si vous voulez, par les malgaches qui s'en sont saisis et qui c'est devenu une institution malgache typique.
Ouais. Ouais. Alors, un mot sur l'orthographe. Est-ce qu'elle a été très normalisée? Est-ce qu'on parle d'orthographe à Madagascar,
mais
justement?
Absolument, vous savez, il y a une règle grammaticale, vraiment, c'est comme la grammaire française, si vous voulez, mais c'est uniquement en malgache. Mm-hmm. Mais c'est bien structuré.
C'est bien structuré. Oui. Bon, je vais prendre des cours. Mais écoutez, merci beaucoup à tous les deux, et il est temps maintenant de retrouver notre séquence Ma parole, qui va nous rapprocher de l'Institut français d'Antananarivo.
Ma parole. Ça t'apprendra.
Denis Bisson, bonjour.
Bonjour Yvan.
Vous êtes directeur de cet Institut français de Madagascar, qui est quand même, j'imagine, en pleine vibration, puisque justement aujourd'hui commence cette semaine du sommet de la francophonie. Alors, qu'est-ce qu'il va faire cet institut? Qu'est-ce qu'on pourra y voir, y entendre? Donnez-nous un petit peu le programme culturel.
C'est gentil de me donner l'occasion de le faire. Bon, d'abord, signaler quand même, ce qui est une évidence, que c'est pas tous les jours que dans un institut français à l'étranger, il y a un sommet de la francophonie dans les parages. Donc évidemment, pour nous, c'est à la fois une aubaine et une responsabilité particulière. Aubaine parce que nous avons du coup pu organiser un certain nombre de choses avec nos partenaires malgaches en priorité, et puis nos partenaires franco-malgaches comme l'Alliance française par exemple.
Mm-hmm. Et puis les alliances françaises, parce que je crois qu'il y en a beaucoup à Madagascar.
Alors il y a 29 alliances françaises dans tout le pays.
C'est énorme quand même.
C'est énorme, c'est un des plus grands réseaux du monde. Si ce n'est le plus grand réseau du monde, puisque je crois qu'ils sont en compétition très très serrée avec des pays d'Amérique latine, mmh, qui sont traditionnellement des pays d'Alliance française, jouent un très grand rôle ici en liaison avec nous, avec l'Institut français de Madagascar, puisque nous avons beau nous appeler Institut français de Madagascar, mais nous ne sommes présents physiquement que dans la capitale, ici à Antananarivo. Alors, l'idée pour nous était d'ouvrir le plus possible le champ de ce que nous faisons pendant cette semaine. Bien sûr, au-delà de cette semaine, en amont et en aval, nous avons eu également beaucoup d'activités. Ça a commencé la semaine dernière avec la caravane des Dimo, c'était samedi dernier, qui traditionnellement inaugure les sommets depuis, je sais pas, au moins 12 ans.
Oui, c'est des fidèles,
ans.
Hein, la caravane.
Ce sont des fidèles, voilà.
Et alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils demandaient à des gens d'improviser, je crois, autour d'un certain
c'était
nombre
autour
de
des Dimo de 2017, des prochains Dimo de la francophonie. Et nous avions une salle comble, les jeunes étaient là, tous les slameurs, les poètes qui ont improvisé sur ces Dimo, c'était très amusant. Et puis nous aurons cette semaine une grande exposition que nous inaugurons d'ailleurs tout à l'heure, ce soir même, de Pascal Maître. Alors Pascal Maître, c'est un grand photographe reporter qui a eu le prix du photojournalisme de Perpignan, qui travaille pour des magazines aussi prestigieux que National Geographic par exemple, dont il est un des grands fidèles. Et c'est quelqu'un qui adore Madagascar, qui a fait 25 séjours à Madagascar, qui a travaillé beaucoup sur les parcs naturels, sur les baobabs en particulier. Il va sortir bientôt un grand livre sur les baobabs de Madagascar, et je pense qu'on fera peut-être une exposition aussi
spéciale sur les baobabs
à l'occasion de la sortie de ce livre. Alors, c'est un baroudeur. Il ne sera pas avec nous, malheureusement, aujourd'hui pour ce vernissage, puisqu'il est actuellement dans le Sahel en train de faire des photographies dans les zones un peu compliquées autour de Tombouctou, les frontières.
Avec... C'est drôlement courageux de faire des photographies à Tombouctou en ce moment. C'est drôlement bien.
C'est un grand reporter qui vraiment mesure les risques, sans doute, mais qui les prend.
Mais qui a pas froid aux yeux.
Qui les prend. Voilà, alors il nous a proposé une exposition sur les villes africaines. Alors vous allez me dire, est-ce que Antananarivo est une ville africaine? Ça peut se discuter. Et justement, j'invite les auditeurs de RFI de la ville et du pays, et ce passage, à venir voir, constater par eux-mêmes, puisque nous avons mélangé les images de Kinshasa, de Lagos, de Kano, de Mogadiscio, avec celle qu'il a réalisée au cours d'une résidence il y a quelques mois, sous le couvert bien sûr de l'Institut français. Et c'est très surprenant parce que nous avons fait des tests avec ces images et certains se sont complètement trompés. C'est-à-dire on dit « Ah mais cette image, tiens, c'est à Tana, c'est quel quartier ?» alors que nous étions à Abidjan ou à Lagos. Donc j'ai trouvé que c'était assez...
Bon, ça montre qu'il y a une parenté quand même.
Voilà,
hein,
parenté il y a quand urbaine. Même quelque chose, qu'on le veuille ou non, en dehors des institutions. Ouais. Voilà. Alors nous aurons également de la danse avec, et nous l'avons choisi évidemment à dessein, deux chorégraphes tunisiens qui sont dans le cadre d'une tournée internationale, donc nous leur avons proposé de venir pendant le sommet. Il s'agit d'Oumaïma Manaï et de Seyfeddine Manaï, donc deux pièces très intéressantes sur en particulier vous savez que la Tunisie a connu une révolution importante et plusieurs révolutions successives même sur la place de la femme et sur la modernité. Voilà. Et puis nous aurons les séries francophones, festin de séries avec l'OIF qui et notre partenaire, l'OIF, pour démontrer que la francophonie n'a pas de retard particulier dans le domaine audiovisuel.
Et puis il y a aussi quelques francophones, quelques intellectuels qui seront présents là. Je crois que Dany Laferrière est invité.
Dany Laferrière à l'invitation. Il y en a peut-être d'autres. Dany Laferrière à l'invitation du gouvernement du Québec et de la mission du Québec. Et nous faisons avec l'Alliance française et à l'Alliance française vendredi 25 une rencontre littéraire de haut niveau, bien sûr, avec Dany Laferrière et d'autres écrivains, Michel Racoutousson, Jean-François
Qu'on
Samelong,
connaît bien à RFI, Michel bien sûr,
ancienne de RFI, oui. Bien sûr, et puis d'autres représentants de la littérature malgache d'aujourd'hui.
Vous souhaitez réécouter l'émission La Danse des Mots ? Rendez-vous sur le site internet rfi.fr.
Eh bien, merci beaucoup, Denis Bisson, de nous avoir livré tout ce programme de l'Institut français à Antananarive. Merci aussi, bien sûr, à Désiré Ramacavel et à Vanf d'avoir assuré la première partie de cette émission qui était consacrée à l'histoire et à l'identité de la langue malgache. Demain, nous continuerons avec une émission consacrée au rôle, à l'usage, à la présence du français sur l'île, toujours dans le cadre de cette semaine consacrée à Madagascar, avec cette danse des mots qui est proposée par le réseau Canopé et par RFI. Bertrand Éclair, Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Amar.
À l'occasion du